Bonjour à tous. Alors, on m'a demandé de préparer une prédication sur le thème du travail. Le travail comme vocation du chrétien. Et avant de commencer, bien, je vous invite à m'accompagner dans la prière. Prions. Seigneur, merci de ce privilège que nous avons de connaître ta parole, qui est la base de nos vies, de ce que nous pensons et croyons. Merci Seigneur de cette chance que nous avons, ce privilège. Ouvre nos têtes et nos cœurs à ta parole, afin que ce soit toi qui nous parle. Merci de cette bénédiction. Amen. De formation, je suis ingénieur. Il a fallu que je passe par le cégep. Et puis au cégep, il fallait passer dans ce temps-là par les sciences pures. On appelait ça les sciences pures et dures. Aujourd'hui, c'est sciences nature, je pense. Mais dans ce temps-là, on séparait sciences santé et sciences pures. Et puis, bon, il faut qu'il y en ait qui aiment ça, les maths et la physique. Et on a été surpris quand tu sors du secondaire 5, puis là, tu regardes l'horaire de cours. Oh, il y a des cours de philo. Vache! C'est ça, des cours de philosophie. Alors, mais finalement, ça a été, moi et plusieurs des étudiants avec moi, notre cours préféré, parce que c'était proche des mathématiques, c'était logique. Alors, naturellement, la philosophie, des fois, prend des chemins mauvais, mais si la philosophie nous enseigne de penser logiquement, c'est tout de même quelque chose de positif. Et au cégep, les profs nous posaient des questions fondamentales pour nous pousser à réfléchir logiquement, ne pas avoir un discours, avoir de bons arguments. Et un des thèmes qu'on a abordé, c'est « L'homme est-il un être de loisir ou de travail? » Alors, tout le monde constate que souvent le travail, c'est pénible. Certains se dévouent entièrement à leur travail, d'autres à mieux le loisir. Ils ne vivraient que de loisir. Mais pour la plupart des gens, on a besoin des deux. On a besoin d'un travail et on a besoin d'un loisir. Et le travail est à la fois une source de satisfaction, puis parfois une corvée. Mais le travail, c'est certainement une dimension fondamentale de l'être humain. Et c'est un sujet de débat et de questionnement pour les psychologues, les sociologues et les philosophes. Et à l'époque, il n'y a aucun de mes profs de philo qui pouvait vraiment répondre à cette question existentielle. Disons qu'il y avait des réponses, mais il leur manquait un bout. En fait, seul le chrétien, c'est beau le philo, mais le chrétien est la seule personne qui peut répondre à une question existentielle. Pourquoi? Puis il s'appuie sur la parole de Dieu, qui est la seule source d'information qui décrit la vraie nature de l'homme. Toutes les sciences humaines, la psychologie, la philosophie, sont en partie bonnes, mais il leur manque l'essentiel sur la nature de Dieu et la nature de l'homme. L'homme, d'après la Bible, on va lire tout de suite comment on devrait voir le travail en allant voir dans Genèse 1, je vais lire avec vous, pas avec vous, mais tout seul en avant. Vous me suivez. Genèse 1, 26 à Genèse 2, 3. Genèse 2, les versets 15 à 19. Et Genèse 3, les versets 6, 17 à 19. Je vais les répéter. OK. On commence à Genèse 1, 26. À Genèse 2, 3. Je lis dans la version Colombe, qui est peut-être un peu différente de votre version. Moi, je prends celle-là parce qu'il y a des gros caractères dedans, alors ça va mieux pour moi pour lire. Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Homme et femme, il les créa. Dieu les bénit et Dieu leur dit, « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui rampe sur la terre. » Dieu dit, « Voici que je vous donne toute herbe porteuse de semences et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre fruitier porteur de semences. Ce sera votre nourriture. À tout animal de la terre, tout oiseau du ciel, à tout ce qui rampe sur la terre et qui a souffle de vie, je donne toute l'herbe verte pour nourriture. » Il en fut ainsi. Dieu vit alors tout ce qu'il avait fait, et voici, c'était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut un sixième jour. Ainsi furent achevés le ciel, la terre et toute leur armée. Le septième jour, toute l'œuvre que Dieu avait faite était achevée, et il se reposa au septième jour de toute l'œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le septième jour et le sanctifia, car en ce jour, Dieu s'était reposé de toute l'œuvre qu'il avait créée. Et on va aller à Genèse 2, les versets 15 à 19. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna ce commandement à l'homme. « Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui sera son vis-à-vis. » L'Éternel Dieu forma du sol tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, afin que tout être vivant porte le nom que l'homme lui aurait donné. Et on va aller à Genèse 3, le verset 6 et les versets 17 à 19. Verset 6, « La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue et propre à donner du discernement. Elle le prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle, et il en mangea. » Verset 17. Il dit à l'homme, « Parce que tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger, le sol sera maudit à cause de toi. C'est avec peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des chardons et des broussailles, et tu mangeras l'herbe de la campagne. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans le sol d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. » Alors, dans la Bible, on voit que l'homme est à la fois à l'image de Dieu, mais un être déchu. Il y a une espèce de dualité divin-déchu qui se constate jusque dans la sphère du travail. L'être humain aime créer, connaître, construire. On a vu ça tantôt, une belle construction. C'est quelque chose qui est agréable. Mais son activité est entachée du péché. Il peut détruire, mentir, être corrompu dans le cadre de son travail. Ces temps-ci, je souffre beaucoup en tant qu'ingénieur parce que, disons qu'on passe dans des actualités un peu souvent. C'est pénible de voir ça. Mais on voit que c'est une conséquence du péché dans le monde. Il n'y a pas une profession, il n'y a pas un métier qui n'est pas touché par le péché. Le travail est souvent pénible à l'homme. Mais ça vient d'où tout ça? La réponse évidente chez les chrétiens, c'est que la chute de l'homme au jardin d'Éden, ça a produit une malédiction particulière reliée au travail. « Le sol sera maudit à cause de toi. C'est avec peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces. » On dit dans la Genèse que Dieu a donné le travail à l'homme avant la chute. Alors, il y a eu la malédiction. Mais avant la chute, l'homme avait déjà du travail. Dieu nous a fait à son image. Et être fait à son image veut dire, entre autres, que l'être humain a été fait pour créer, apprendre, construire. Le travail en soi est bon. Le travail, c'est dans la volonté de Dieu pour l'homme et c'est une continuité de l'œuvre de création de Dieu. Dieu a créé et il a demandé à l'homme de continuer à travailler. Dieu s'est reposé de son travail au septième jour et il a confié à l'homme des tâches qu'on a lues. Un, cultiver le jardin pour s'en nourrir. Cultiver le jardin, ça veut dire planter, arroser, émonder. C'est un certain travail. Il a demandé à l'homme de nommer les animaux. Ah, un travail intellectuel. Pas manuel, intellectuel. Et au nombre d'animaux qu'il y avait dans ce temps-là, j'imagine que c'était pas mal de travail. Il a demandé de remplir la terre. C'est un travail de colonisation. Il faut se déplacer, établir des campements. Pour remplir la terre, ça prend des générations, mais c'est une forme de travail. Il a demandé de dominer sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Ça a été utilisé par la suite. On voit l'homme qui abuse de la création, qui abuse de la terre. Mais tout de même confié à Dieu avait tout de même confié à l'homme d'être régent, d'être dominé la création. Donc, le travail avant d'être entaché du péché était bon et loin d'être pénible. Le travail, ce n'est pas une malédiction en soi. C'est le péché venu après qui est venu tordre le travail et qui l'a rendu plus pénible. Question, est-ce que l'homme est un être de loisir ou de travail? Eh bien, la réponse que la Genèse nous donne, c'est que l'homme est un être de travail, un travail qui est devenu une corvée à cause du péché. Mais sans le péché, le travail redevient entièrement bon pour l'homme et se confond avec le loisir. J'ai l'opportunité, la chance d'être à la retraite maintenant. Et j'ai travaillé pratiquement ma carrière devant un ordinateur, surtout dans les dernières années. J'ai toujours été frustré d'avoir juste la fin de semaine pour bricoler. J'aime bricoler. Alors là, j'ai du fun. Je rénove notre deck en arrière. Je me suis acheté une scie à ondelet. C'est le bonheur. Alors, d'un côté, c'est du travail. Mais pour moi, c'est un loisir. C'est les deux en même temps. Marquez bien que quand je me cogne le doigt avec le marteau, je constate que le péché est toujours présent dans le travail. Mais il reste que loisir et travail, ça fait une seule chose. Et c'est comme ça que ça devait être avant la chute. Une autre question. Dans le monde à venir, lorsqu'il y aura eu le jugement dernier, lorsque nous serons dans la Nouvelle Jérusalem, est-ce que nous allons travailler? Okay, oui. Eh bien, moi aussi, je dis oui. Pourquoi? Parce que on voit que c'est dans la nature de Dieu, le travail, c'est dans la nature de l'homme. Il a demandé à l'homme, avant la chute, d'accomplir des choses. Nous sommes à l'image de Dieu parce que nous créons, nous apprenons. C'est spéculatif, mais on peut imaginer que dans l'au-delà, on aura un travail loisir qui sera agréable. Mais revenons à la dualité actuelle du travail. Hein? Nous sommes après la chute. Le travail est à la fois bon, mais entaché par le mal. Comment le chrétien doit voir le travail dans le monde présent? On est dans un monde très individualiste. Et il y a deux façons, en gros, là, de voir le travail aujourd'hui, dans le monde, je dirais. Certains voient dans le travail un accomplissement personnel, une façon de prouver qu'on est quelqu'un. C'est très présent aujourd'hui. On voit ça même chez les femmes maintenant. La carrière, ça doit être réussie même au prix de la famille. Il y a eu des gros bouleversements sociaux en Occident. Il n'y a pas 30-40 ans, pratiquement toutes les femmes étaient au foyer à éduquer les enfants. Mais le féminisme a changé les choses, a mis de la pression sur les femmes pour qu'elles quittent la maison. Et nous avons maintenant une première ministre qui est de cet avis-là, que la vraie vie, c'est la carrière. Et on fait croire aux femmes qu'avant, les femmes étaient malheureuses d'être au foyer. Certainement qu'il y avait des femmes qui étaient malheureuses, mais la plupart étaient heureuses. Se voisinaient, avaient des enfants qui jouaient ensemble. Et maintenant, on dévalorise ce rôle-là qui est d'une très grande valeur aux yeux de Dieu. Et la conséquence, c'est que les femmes vivent frustrées parce qu'elles ne peuvent pas faire tout. Il y a le stress au travail et l'espérance de vie entre les hommes et les femmes commence à se rétrécir, alors qu'avant, les femmes avaient une espérance de vie pas mal plus longue que les hommes. Comme pour les femmes, le succès, ça se mesure naturellement en rémunération et en pouvoir. Il y a un désir d'avoir une grosse job. Et dans cette optique carriériste, le travail, c'est donc vu comme une bénédiction. On glorifie le travail. Mais c'est une bénédiction, avouons-le, pour soi-même. On travaille pour soi-même, même parfois aux dépens de la famille. On voit le travail plutôt comme une malédiction. Il y en a pour qui le travail, c'est pas important. Le travail, c'est une corvée, c'est pas la joie. La joie, c'est les loisirs, c'est la vie privée et la famille. Ça semble mieux, mais les deux types de personnes vivent pour eux-mêmes, en fin de compte. Les carriéristes, comme les jovialistes, disons. Les carriéristes pensent à eux-mêmes avant leur famille et vivent pour l'argent et la gloire. Les jovialistes pensent à leur bonheur, à leur famille, mais pensent peu à la société autour d'eux. Et dans les deux cas, c'est de l'individualisme. Aucun des deux considère le travail comme un moyen de servir autrui. Soit en glorifiant, soit en dénigrant le travail, on passe à côté de la vraie signification du travail. Les chrétiens, comment est-ce qu'ils voient le travail? Est-ce que la société individualiste nous influence dans notre perception du travail? En général, les chrétiens ne sont pas carriéristes parce que leur travail séculier, leur carrière, ne doit pas nuire au travail qu'ils font à l'Église. Dans les milieux chrétiens évangéliques, on a plutôt tendance à valoriser le travail pour le Seigneur. Mais malheureusement, certains vont jusqu'à dire que leur travail séculier et sans importance, c'est seulement pour leur permettre de gagner leur vie. Le vrai travail, c'est à l'Église, et travailler dans le monde, c'est donc une obligation plutôt qu'une bénédiction. Après ma part, c'est louable, notre priorité, c'est le royaume de Dieu. Hein? Matthieu 6, 33, « Cherchez d'abord le royaume des cieux, et tout ça vous sera donné par-dessus. » Mais est-ce que c'est une vision vraiment chrétienne, biblique? Est-ce que ça tient compte du fait que le travail est aussi une bénédiction de Dieu, comme on l'a vu dans la Genèse, et pas seulement une malédiction? Attention, parce que cette vision du travail qui sépare complètement spirituel et séculier, c'est assez proche de celle d'une certaine église au Moyen Âge. Le Moyen Âge s'étend à peu près de l'an 500 à 1500, là, puis surtout dans la période l'an 1000 à 1500, il y a des penseurs qui voyaient l'activité de l'esprit, l'activité spirituelle, comme la plus noble, puis le travail manuel comme inférieur. Et c'est pourquoi ça a conduit à percevoir la vie des moines dans les monastères comme la meilleure. Il y avait énormément de monde qui était dans les monastères. Un bon film pour ça, c'est « Au nom de la rose », qui dépeint vraiment bien qu'est-ce qu'était le Moyen-Âge et la façon de vivre en ce temps-là. La vie contemplative était la mieux vue. Le travail productif n'avait pas de valeur religieuse. Vous étiez boulanger, ferronnier, votre travail lui-même n'avait pas de valeur religieuse. Le travail même s'était vu comme un obstacle à la contemplation. L'amour et l'étude de Dieu étaient plutôt mystiques. Hein? Et ça demandait de s'isoler du monde. On se coupait du monde, on allait dans les monastères. L'amour du prochain était important. Il y a des ordres où l'amour du prochain était important, comme les franciscains. Et s'engager dans le monde envers les pauvres était bien vu. Mais le top du top des tops, c'était l'adoration de Dieu dans la prière, les chants grégoriens, des mortifications. Hein? On se flagellait, il y avait vraiment des fouets, on se flagellait pour s'approcher de Dieu, détruire le péché en nous. C'était très mystique. On voit là le glissement vers le salut par les œuvres. Ils n'étaient pas les seuls considérés plus près de Dieu. Les nobles étaient plus près de Dieu à cause de leur sang royal. Si vous étiez cousin du roi, vous étiez plus près de Dieu, puisque le roi est près de Dieu. Et les riches, là, habituellement, il y avait une correspondance entre les nobles et les riches, mais il y avait des riches qui n'étaient pas de sang royal. Eux, ils pouvaient se rapprocher de Dieu, surtout à la période de la fin du Moyen Âge, ce qu'on a appelé la Renaissance. L'Église a commencé à vendre des indulgences. Alors, on avait créé, ça ne se retrouve pas dans la Bible, mais on avait créé le purgatoire qui est entre cette vie et le paradis. Et on disait aux gens, ben, si vous avez péché, vous pouvez raccourcir, votre séjour au purgatoire en payant. Alors, quelqu'un faisait un adultère, il payait, puis ses jours au purgatoire étaient enlevés. Et la grande basilique Saint-Pierre de Rome, là, c'était un des plus gros monuments au monde, a été construite à cette époque-là, là, 15e, 16e, ça a pris au-delà de 100, 150 ans pour construire ça. Énormément de fonds. Et une partie des fonds, bien, c'était les indulgences, donc de l'argent sale. Il y avait donc une hiérarchie sociale et spirituelle. Le clergé, les nobles, les riches et le reste du monde qui n'avait pas grand-chance de s'en tirer. C'est pour ça que beaucoup de gens vivaient dans l'angoisse. Et c'est à cette époque-là que le réformateur Martin Luther a jeté un pavé dans la mare. L'expression est bonne, un pavé uni, là, disons. Chez nous, ce serait plutôt un morceau d'asphalte. Il y a du monde autour d'une flaque d'eau, puis il va tirer ça. Alors, ça dérange tout le monde. En 1516, Luther a mis ses 95 thèses sur l'église de Wittenberg, qui remettait en question, entre autres, les indulgences. Pourquoi il en est arrivé là? Il a découvert la lettre aux Romains. Luther était lui-même un moine de l'ordre des Augustins. Alors, il faisait de la flagellation et puis il montait les marches Saint-Pierre de Rome à genoux. Mais quand il a découvert l'Épître aux Romains, il a vu que le salut, ce n'est pas par les œuvres, mais par la seule grâce de Dieu. Sola gratia. Luther conclut que les moines s'éloignent de leurs prochains en se retirant dans la vie solitaire du couvent pour assurer égoïstement leur propre salut. Écoutons-le. Ce faisant, ils ont trahi simultanément la foi et le salut. Leurs œuvres ne sont pas mises au profit du prochain, mais au leur. Et au-delà de la question du salut par la foi seule, Luther a introduit dans la société occidentale de l'époque une idée révolutionnaire. Tout croyant, par son travail même le plus séculier, donc non spirituel, aime son prochain et devient un instrument de Dieu vers l'humanité. Le travail contemplatif des moines n'a pas plus de valeur que celui du boulanger. En fait, il y en a moins. Le boulanger travaille pour autrui, le moine pour lui-même. À l'époque, seul le travail pour l'Église était considéré comme un travail pour Dieu. Et Luther renverse tout ça. Le travail séculier, exécuté sous le regard de Dieu, avec compétence et pour le bien collectif, devient une vocation. Vocation chrétienne. Écoutons encore Luther. Même les emplois semblant les plus séculiers sont un geste d'adoration envers Dieu. Un geste d'obéissance plaisant fortement à Dieu. Pourquoi est-ce que je ne devrais pas librement, joyeusement, de tout mon cœur, avec une volonté enthousiaste, me donner comme Christ à mon voisin? Christ s'est offert lui-même à moi, puisque par la foi, j'ai une abondance de toutes bonnes choses en Christ. Le concept de vocation, Luther rejetait la dévaluation médiévale du travail. Et puis, il a ouvert la voie à une réflexion profonde sur la place du travail dans la vie humaine. Le concept de vocation s'est répandu dans tous les pays protestants. Et c'est une des raisons principales du développement des pays protestants par rapport aux pays catholiques. Imaginez dans un pays où une bonne partie des gens croient qu'ils font tout devant Dieu et que Dieu leur demande de faire du bien à autrui par leur travail. C'est ce qu'on a appelé l'éthique protestante du travail. Ça implique, entre autres, on en parle beaucoup aujourd'hui de l'éthique. On a une commission Charbonneau où on voit que les gens ont manqué d'éthique. Mais la déchristianisation de notre société nous amène à ce qu'on constate à la télévision. Les Huguenots étaient les protestants français. Et encore aujourd'hui, en tout cas, encore il y a une trentaine d'années, même un catholique romain utilise l'expression « honnête comme un Huguenot » pour dire que quelqu'un est vraiment très honnête. Les Huguenots avaient beau être persécutés, on reconnaissait qu'ils avaient une éthique du travail. Le grand réformateur Jean Calvin a développé encore davantage la notion de vocation. Pour lui, le chrétien est appelé, dans le cadre de son travail, à lutter contre les conséquences de la chute, à lutter contre la paresse, contre le vol, contre la corruption dans le milieu de travail. Et je dirais, il n'a pas parlé de syndicalisme, mais on est appelé même à combattre les abus des employeurs qui font souffrir l'employé. Est-ce qu'il est permis à un chrétien, est-ce qu'il est correct pour un chrétien d'œuvrer dans un syndicat? Les syndicats n'ont pas trop la cote ces temps-ci, parce que les syndicats qui abusent. Mais c'est peut-être parce qu'on manque de chrétiens dans les syndicats. J'ai eu le plaisir d'être 5 ans secrétaire de mon syndicat. J'ai vraiment beaucoup aimé l'expérience. Naturellement, je n'étais pas dans un syndicat qui abusait, mais on travaillait pour améliorer avec l'employeur. Et s'il n'y avait pas eu de syndicat, avant les syndicats, il y a des compagnies, vous regarderez le film... Mais pour regarder ce qui était la condition des mineurs il y a un siècle et demi, c'était épouvantable. On faisait travailler les femmes et les enfants dans des conditions épouvantables. C'était l'exploitation de l'employé. Donc ça revirait de bord peut-être trop, mais il reste que le chrétien est appelé, d'un côté comme de l'autre, à lutter contre les conséquences de la chute. Mon message aujourd'hui, c'est essentiellement ceci. Faisons attention de considérer notre travail comme strictement utilitaire. Le travail, ça a été voulu par Dieu pour le bien de l'homme. À cause de l'entrée du péché dans le monde, le travail est devenu pénible. D'ailleurs, le péché a touché tout l'être humain dans son entier. Le physique, on peut tomber malade. Le psychologique, on peut faire dépression. Le social, les relations interpersonnelles sont plus difficiles, le culturel et même le spirituel a été touché. Quand on prie et qu'on ne fait que défiler une liste d'épicerie, on n'a pas compris. D'abord et avant tout, glorifier Dieu. Ensuite viennent les demandes. Le péché a naturellement aussi tordu le travail. Il y a des abus, il y a des conflits, il y a de l'improductivité. À cause du péché. Le Seigneur nous appelle à lutter contre le péché dans tous les domaines de nos vies, au travail, dans l'Église et dans la société. Si on considère le travail comme une vocation, si faisons bien ce que nous avons à faire, nous luttons contre les conséquences du péché dans le monde. Nous sommes des instruments de Dieu envers l'humanité pour sa gloire. 1 Corinthiens 10, 31 nous dit, Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, et quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Et ça inclut le travail. Dieu bénit l'humanité même si l'humanité est aux prises avec le péché. Dieu fait pleuvoir sur les bons et les méchants. Et c'est ce qu'on appelle la grâce générale, que les réformateurs ont distingué de la grâce particulière. La grâce particulière, c'est naturellement le salut en Jésus-Christ. C'est la grâce. On a parlé ce matin que Jésus est venu dans le monde. Il savait qu'un jour, il s'offrirait lui-même. Le salut en Jésus-Christ, c'est la grâce particulière de Dieu. Mais il y a aussi une grâce qui est générale. Je vous invite à lire Matthieu 5. 44 et 45. Moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent, qui vous persécutent. Alors, vous serez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Je vous dis, c'est Dieu nous demande de faire du bien envers tous. Et si vous le faites, vous êtes appelé fils de Dieu parce que Dieu lui-même fait du bien à toute l'humanité. On est appelé, nous sommes à l'image de Dieu et on est appelé à l'imiter dans ça. La grâce générale de Dieu envers les hommes, ça veut dire que Dieu, malgré la présence du péché dans le monde, use de patience et ne détruit pas le monde. Le péché dans l'humanité pourrait justifier Dieu de finir tout ça là. Il l'a déjà fait une fois dans le temps de Noé. Il le fera à la fin du monde. Mais entre-temps, il use de patience. Donc, c'est la première grâce générale, c'est pas de nous, de pas de détruire le monde. Deux, il a créé un monde plein de richesses. Malgré la présence du péché dans le monde, vous allez dans un parc national, voyez combien Dieu nous a bénis et nous bénit à tous les jours. Dieu fait arriver de bonnes choses aux incroyants comme aux croyants. Il fait soleil, il pleut, on a de la nourriture, qu'on soit croyant ou non-croyant. Pour le moment, Dieu use de grâce générale et envers les non-croyants et envers les croyants. Et Dieu se sert des chrétiens pour faire du bien non seulement aux croyants, mais aussi aux non-croyants. Galates 6:10 nous dit, « Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien, et surtout envers les frères en la foi. » Alors, ce verset-là nous montre que notre premier devoir de service est envers les frères en la foi, mais ça dit aussi que de ne pas oublier ceux qui n'ont pas la même foi que nous. Alors, notre travail, notre vocation, ça constitue un instrument dans les mains du Seigneur pour bénir l'humanité. L'humanité a besoin de bons boulangers, de médecins altruistes, de concierges consciencieux, d'avocats, de garagistes et d'ingénieurs honnêtes, de travailleurs qui refusent d'être payés au noir, de syndicalistes modérés, de patrons respectueux, de travailleurs de la construction non violents, de juges justes, de députés dévoués, de mères aimantes. Comme le monde serait différent sans le péché. Les chrétiens sont appelés par Jésus le sel de la terre. Et dans le cadre de notre travail, on est aussi appelé à être ce sel de la terre. Et si on est par notre vocation des canaux de la grâce générale de Dieu envers les hommes, notre témoignage de bons travailleurs, de bons compagnons de travail, va nous ouvrir un jour ou l'autre une porte. Et alors, ce sera le temps de parler de la grâce particulière du salut en Jésus-Christ. L'opportunité de témoigner, de parler de l'Évangile va être facilitée. Pour dans la société québécoise, il est difficile de parler de la grâce particulière si on ne pratique pas la grâce général. Les Québécois savent ce que c'est que l'hypocrisie. Leur religion catholique romaine les a échaudés. Et il faut tenir compte de ce contexte-là. L'exercice de la grâce générale doit venir avant l'annonce de la grâce particulière. Naturellement, il faut tâche de chaque situation, mais au Québec, c'est important de montrer un bon témoignage. Et c'est particulièrement vrai dans le cadre de notre travail séculier. Notre travail à l'usine, à l'hôpital, à la maison ou au bureau n'est pas justement strictement séculier. Tout est spirituel. Chaque action de la vie quotidienne est spirituelle. Faisons pas l'erreur de séparer ce qui est séculier de ce qui est spirituel comme on le faisait au Moyen Âge. Le travail compétent, c'est une forme d'amour pour le prochain et un acte d'adoration pour le Seigneur. Que ce soit le pétrissage du pain par les mains du boulanger ou apporter une prédication, les deux sont spirituels. Faisons tout coram Deo, c'est-à-dire devant Dieu. Notre vocation en tant que chrétien, c'est de le glorifier. Alors glorifions-le aussi dans notre travail. Et là-dessus, je vous invite à prier. Et après, on va voir un dernier chant. Seigneur, nous savons d'après ta parole que nous avons été créés sans défaut, sans péché, à ton image. Et que tu as donné le travail pour qu'on soit justement à ton image. Mais Seigneur, le péché est entré dans le monde et nous vivons tous les jours de notre vie de la frustration. On voit de la corruption. Mais on sait aussi que tu nous appelles à être le sel de la terre, à te servir, à être un témoin de toi envers nos compagnons de travail. Donne-nous d'avoir toujours à l'esprit que nous sommes sous ton regard dans tout ce que nous faisons. Et nous voulons te remercier pour le privilège que nous avons de te connaître et donne-nous d'agir en conséquence de cette connaissance. Amen.
Je vais vous demander de vous lever, on va chanter ensemble un chant que Norman a choisi. Je pense que tu devrais être connu par la plupart. Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix, des bâtisseurs d'amour. On chante ensemble. Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour. Où demeure la haine, que nous apportions d'amour. Là où se trouve l'offense, que nous mettions le pardon. Là où grandit la discorde, que nous fassions l'unité. Là où séjourne la rare, que nous mettions la vérité. Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour. Seigneur, fais de nous. Seigneur,